l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Neuvième épisode.
Qui traite du moyen ingénieux et plaisant que le curé et le barbier trouvèrent pour faire sortir notre amoureux chevalier de la durissime pénitence qu'il s'était imposée. Le sage Sidi Ahmed Benengeli poursuit son récit en racontant qu'une fois déguisé, le premier en demoiselle errante, le second en écuyer, le curé et le barbier sortirent de l'auberge.
Mais dites-moi, maître Nicolas, il me vient un scrupule. Un prêtre ne peut décemment s'habiller de la sorte, même si son intention est plus louable. Je vous propose donc d'échanger nos costumes. Ainsi, jouerai-je un rôle moins compromettant pour ma dignité.
J'accepte l'échange, monsieur le curé. Mais je ne m'habillerai pas en femme tant que nous ne serons pas arrivés près de l'endroit où se trouve Don Quichotte.
Le barbier plia donc son costume, le curé mit sa barbe, et ils partirent sous la conduite de Sancho vers la montagne où Don Quichotte s'était retiré avec la ferme intention de le ramener chez lui. Le lendemain, ils arrivèrent à l'endroit où Sancho avait semé les branches de genêt qui devaient le ramener tout droit à Don Quichotte.
C'est bien la route. Oh. Vous pouvez vous déguiser à présent, si vraiment cela peut servir à délivrer mon maître.
Et nous le croyons, Sancho. Mais surtout, quand ton maître te demandera si tu as remis la lettre à Dulcinée, dis-lui que tu l'as remise, mais que la dame, ne sachant pas lire, a répondu de vive voix, et qu'elle lui ordonne de venir sur le champ se présenter devant elle. Si grande est l'urgence qu'elle a de le voir. Avec cette réponse et ce que nous comptons lui dire de notre côté, nous sommes sûrs de le ramener à une vie meilleure.
Bien. Mais je préfère prendre les devants et aller trouver mon maître avec la réponse de sa dame. À mon avis, ce sera suffisant pour le sortir de là.
Nous t'attendrons donc ici, Sancho, jusqu'à ce que tu rapportes des nouvelles de notre ami.
Sancho s'enfonça dans une gorge de la montagne, laissant les deux autres au bord d'un ruisseau paisible où quelques arbres et des rochers donnaient une ombre douce et fraîche. Mais tandis qu'il se reposait, attendant le retour de Sancho, une voix aux tristes accents résonna non loin d'eux.
Mon Dieu, aurais-je enfin trouvé le lieu qui servira de sépulture cachée à ce corps, fardeau dont je souhaite être débarrassé au plus tôt. Oui, sans doute. La solitude de ces montagnes n'est pas une promesse trompeuse.
Le curé et le barbier se levèrent pour aller à la recherche de la personne qu'ils entendaient. Ils n'eurent pas fait 20 pas qu'ils aperçurent, au détour d'un rocher, assis contre un frêne, un jeune homme habillé en paysan dont ils ne purent distinguer le visage, car il penchait la tête vers un ruisseau dans lequel il baignait ses pieds. Ils approchèrent tout doucement, et le jeune homme occupé à se laver ne les entendit point. Quand il eut fini, il tira de dessous son bonnet un linge pour s'essuyer. Pour ce faire, il releva la tête et laissa voir un visage d'une grande beauté. Puis il ôta son bonnet, secoua la tête d'un côté et de l'autre, et l'on vit se déployer une chevelure que les rayons du soleil auraient eu toute raison de jalouser.
C'est une femme. Oh, une créature céleste plutôt.
Ils résolurent de se montrer pour savoir qui elle était. Au bruit qu'ils firent en se levant, la belle tourna la tête. À peine les eut-elle aperçus qu'elle se releva. Puis, sans prendre le temps de se chausser ni de se coiffer, elle ramassa prestement un paquet, contenant sans doute quelques hardes, et toute troublée et craintive, voulut fuir.
Madame, arrêtez, qui que vous soyez, et sachez que nous ne voulons que vous servir. Vous n'avez donc aucune raison de prendre la fuite. Ce que nous cache votre costume, madame, vos cheveux nous l'ont dévoilé. Il faut un motif bien grave pour vous obliger à déguiser votre beauté sous ce costume indigne d'elle et vous amener dans ces parages solitaires. Madame, remettez-vous du trouble que vous a causé notre vue et racontez-nous votre histoire, triste ou heureuse.
La jeune fille, qui se prénommait Dorothée, leur expliqua les raisons de sa présence ici. Ayant appris que l'homme qui avait prêté serment de l'épouser l'avait honteusement outragée en se mariant à une autre, elle était partie à sa recherche, déguisée en paysan. Et à la suite de multiples mésaventures, recherchée par les siens, perdue de réputation et en proie à la médisance, elle avait dû fuir et se réfugier dans la montagne où elle comptait finir sa vie. Le curé, à force de prières et de bons conseils, persuada Dorothée de le suivre dans son village où elle pourrait se procurer tout ce qui lui manquait et réfléchir aux moyens de retrouver son amant déloyal. Puis le barbier lui expliqua brièvement les raisons qui les avaient amenés dans ces montagnes, ainsi que l'étrange folie de Don Quichotte.
Monsieur le curé ? Maître Nicolas, où êtes-vous passé ?
Alors Sancho, quelle nouvelle de ton maître ?
Ah bon, je l'ai trouvé vêtu seulement de sa chemise, maigre, jaune, mort de faim, et toujours aussi amoureux de sa dame Dulcinée. Ah, j'ai beau lui dire qu'elle lui ordonnait de quitter ses montagnes et d'aller au Toboso, il n'a rien voulu entendre, affirmant qu'il ne paraîtrait pas devant cette beauté sans pareille tant qu'il n'aurait pas accompli un exploit qui lui fût mérité cette insigne faveur. Oh, au train où vont les choses, mon maître risque bien de ne jamais devenir empereur. Il faut à tout prix le tirer de là.
Et c'est ce que nous comptons faire, Sancho, de gré ou de force.
Le curé exposa alors à Dorothée le moyen qu'ils avaient imaginé pour ramener Don Quichotte à la raison, ou au moins le ramener chez lui.
Si vous le permettez, je pense que je ferai le rôle de la demoiselle offensée bien mieux que monsieur le barbier.
Oui.
J'ai d'ailleurs là le costume qu'il faut pour le jouer au naturel. Et j'ai lu assez de romans de chevalerie pour savoir dans quel style les demoiselles offensées demandent de l'aide aux chevaliers errants.
Il n'y a pas de doute, la chance est de notre côté.
Dorothée tira de son paquet une très belle robe, une mantille verte tout aussi jolie, et dans un écrin, elle prit un collier et quelques bijoux. En un tour de main, elle fut habillée et parée comme une grande dame.
Monsieur le curé, quelle est cette jolie dame ? Et que diantre vient-elle faire dans un endroit pareil ?
Cette jolie dame, mon fils, est tout bonnement l'héritière en droite ligne du grand royaume de... Micomicon, la princesse Micomicon. Elle recherche votre maître pour le prier de la venger d'un affront que lui a fait un infâme géant. Mais si grande est la renommée que s'est acquise le chevalier Don Quichotte sur toute la surface de la terre, que cette princesse arrive de Guinée pour le voir.
Excellente idée. Surtout maintenant qu'elle l'a trouvé.
Entre-temps, Dorothée était montée sur la mule du curé. Et le barbier avait ajusté à son menton la fausse barbe que portait auparavant son compère.
Je serai votre fidèle écuyer, madame. À présent, Sancho, conduis-nous auprès de ton maître. Et surtout, ne dis pas que tu nous connais.
Je pense que ma présence n'est pas nécessaire. Partez devant, je vous suivrai, sans me presser.
Ils avaient fait environ trois quarts de lieue quand ils découvrirent Don Quichotte au milieu d'un amas de rochers. À sa vue, Dorothée, averti par Sancho, donna aussitôt de la cravache à son palefroid que suivait le barbier abondamment barbu. Quand ils furent près de lui, l'écuyer sauta de sa mule, prit Dorothée entre ses bras et l'aida à mettre pied à terre.
Oh, vaillant et valeureux chevalier, vous voyez devant vous la jeune fille la plus affligée et outragée qu'il y ait sous le soleil. Et s'il est vrai que la valeur de votre invincible bras n'a d'égal que la grandeur de votre immortelle renommée, vous avez l'obligation de secourir une malheureuse venue de contrées lointaines, attirée par le parfum de votre illustre nom.
Et moi, belle dame, je ne vous répondrai pas une seule parole et n'écouterai rien de ce qui vous afflige que vous ne vous soyez relevé.
Je ne me relèverai, monsieur, que lorsque votre courtoisie m'aura accordé la faveur que je sollicite.
Vous pouvez y aller sans crainte, monsieur. Cette faveur qu'on vous demande, ce n'est rien du tout, tout juste de tuer un géant. Et celle qui vous le demande, c'est la digne princesse Micomicon, reine du grand royaume de Micomicon.
Qui qu'elle soit, je ferai ce que m'impose mon devoir, conformément aux vœux que j'ai prononcés.
Ah.
Daignez-vous relever, madame, je promets d'accorder à votre grande beauté la faveur qu'elle voudra bien me demander.
Je demande que votre très magnanime personne me suive sur le champ, là où je me propose de l'emmener, et qu'elle me promette de ne point s'engager dans aucune autre aventure, tant qu'elle ne m'aura pas vengée du traître qui a usurpé mon royaume.
Je répète que je vous l'accorde. Mettons-nous donc à l'ouvrage, car on dit bien que mal en prend à qui diffère le moment. Vérifie les sangles de Rocinante, Sancho, et apporte-moi mes armes. Quittons ces lieux et allons secourir cette noble dame avec l'aide de Dieu.
Le curé, caché derrière les broussailles, n'avait rien perdu de la scène. Il arriva le premier à la grand-route. Dès que Don Quichotte et ses compagnons l'eurent rejoint au sortir de la montagne, il se mit à considérer le chevalier attentivement comme s'il ne lui était pas inconnu.
Oh, oh, quel bonheur! Mais c'est mon compatriote et ami Don Quichotte de la Manche, le miroir de la chevalerie, la fleur et la crème de la galanterie, le protecteur et le soutien des affligés, en un mot, le modèle des chevaliers errants.
Tout en parlant, il étreignait le genou gauche de Don Quichotte, qui, stupéfait des paroles et de la conduite de cet homme, le dévisageait.
Mais c'est vous, monsieur le curé? Oh, mais lâchez-moi donc! Il n'est pas juste que je reste à cheval quand une personne aussi respectable que vous est à pied.
Jamais de la vie. Non, restez à cheval, monsieur le chevalier. Puisque c'est à cheval que vous affrontez les plus terribles aventures et accomplissez les plus grandes prouesses de notre temps.
Permettez, messieurs. Mon écuyer ne souffrira pas qu'un prêtre aille à pied s'il peut être à cheval.
Assurément.
Mettant aussitôt pied à terre, le barbier invita le curé à prendre sa place. Et celui-ci accepta sans trop se faire prier.
À présent, que votre grandeur, madame, nous conduise où il lui plaira.
Vers quel royaume veut nous mener votre seigneurie? Serait-ce par hasard celui de Micomicon?
En effet, monsieur. C'est bien là que je vous mène.
Ah, alors le chemin que vous allez suivre passe nécessairement par mon village.
Tous se mirent en route, se dirigeant vers l'auberge qui devait être à 2 lieues de là.
Mais dites-moi, monsieur le curé, quel motif vous amène en ces lieux, seul, sans même un valet, et dans une tenue si légère que j'en suis tout surpris?
Sachez donc, monsieur le chevalier, que j'allais avec maître Nicolas, notre barbier et ami, à Séville, toucher une certaine somme qu'un parent à moi m'avait envoyée. Hier, passant par ici, nous avons été attaqués et dépouillés par 4 voleurs de grand chemin.
Don Quichotte se contenta de cette explication. Un peu plus tard, il prit à part son écuyer.
Dis-moi, Sancho, où, quand et comment tu as trouvé Dulcinée? Que voyais-tu sur son visage pendant qu'elle lisait ma lettre? Qui te l'avait transcrite? Bref, raconte-moi tout ce qui, selon toi, vaut d'être rapporté dans cette affaire.
Pour vous dire, monsieur, je n'ai eu besoin de personne pour me copier la lettre.
Hein?
Pour la bonne raison que je n'avais pas de lettre.
Tu dis vrai, Sancho. 2 jours après ton départ, j'ai trouvé sur moi le carnet de poche dans lequel je l'avais écrite. J'ai toujours cru que tu reviendrais la chercher.
Mais c'est ce que j'aurais fait, monsieur, si je ne l'avais pas apprise par cœur quand vous me l'avez lue. Ce qui m'a permis de la réciter à un sacristain, qui l'a copié de ma mémoire mot pour mot. Et lui, qui avait lu quantité de lettres d'excommunication, a même dit qu'il n'en avait jamais vu d'aussi belle que celle-là.
Mais dis-moi, Sancho, que faisait cette reine de la beauté lorsque tu es arrivé? Tu l'as sans doute trouvée occupée à broder au fil d'or la devise du chevalier qui se meurt d'amour pour elle.
Pas du tout. Elle vannait 2 boisseaux de blé dans sa basse-cour.
Sache qu'entre ses doigts, ses grains de blé étaient autant de perles. Mais quand tu lui as remis ma lettre, l'a-t-elle portée à ses lèvres ou posée sur son cœur?
Elle était en train de secouer tant et plus le crible pour trier le grain. Alors elle m'a dit, posez donc votre lettre sur ce sac, je la lirai quand j'aurai fini de cribler tout ce qu'il y a là.
Ah, femme rouée! C'était sûrement pour la lire tout à loisir et mieux s'en délecter. Mais continue, que voulait-elle savoir de moi?
C'est qu'elle ne m'a rien demandé. Mais moi, je lui ai expliqué comment vous faisiez pénitence pour mieux la servir. À moitié nu, retiré dans ces montagnes comme un sauvage.
Bien, mais il y a une chose, Sancho, que tu ne pourras pas nier. Quand tu t'es approché d'elle, n'as-tu pas respiré un parfum d'Arabie? Une fragrance, un arôme, je ne sais pas moi. Un peu comme si tu étais entré chez un gantier à la mode.
Ça sentait plutôt la sueur.
Tu te trompes, Sancho. Ou tu étais enrhumé, ou tu as confondu avec ta propre odeur. Je connais trop le parfum de cette rose au milieu des épines, de cet ambre en fusion. Et quand elle a eu fini sa tâche, elle a lu ma lettre, n'est-ce pas?
Ah, la lettre, elle ne l'a pas lue.
Hein?
Parce qu'elle a dit qu'elle ne savait ni lire ni écrire. Au contraire, elle l'a déchirée en 1000 morceaux, en disant qu'elle ne voulait pas que quelqu'un du village la lise et découvre ses secrets.
Sais-tu, Sancho, ce qui m'étonne le plus ? C'est qu'il me paraît que tu es allé et revenu par les airs, car tu n'as guère mis plus de 3 jours pour faire ce voyage, alors qu'il n'y a pas moins de 30 lieues d'ici au Toboso. Cela me donne à penser que ce sage enchanteur qui est mon ami et qui prend soin de mes affaires a dû t'aider à voyager, sans même que tu t'en aperçoives. Mais laissons cela et dis-moi, que dois-je faire selon toi ? D'un côté, le désir de voir madame me presse et me harcèle. De l'autre, je ne peux oublier la parole que j'ai donnée à cette princesse qui nous accompagne, ni la gloire que je vais gagner dans cette aventure.
Pour le moment, monsieur, ne vous inquiétez pas de la visite à madame Dulcinée. Allez tuer le traître et qu'on n'en parle plus.
Tu es dans le vrai, Sancho, et je suivrai ton conseil. Mais garde-toi bien d'en rien dire à personne, pas même à nos compagnons.
Toute l'équipée arriva le lendemain à l'auberge, où ils furent accueillis avec allégresse par les aubergistes, leur fille et la servante Maritorne.
Madame la Châtelaine, je vous prie de me préparer un meilleur lit que l'autre fois.
Ah bah, monsieur le chevalier, si vous payez mieux, vous aurez une couche digne d'un prince.
Don Quichotte s'y engagea, et on lui dressa un lit acceptable dans le grenier où il avait déjà logé. Il se coucha sur le champ car il avait le corps aussi mal en point que l'esprit. Pendant qu'il dormait, on chercha un moyen d'éviter à Dorothée d'avoir à l'accompagner jusqu'à son village tout en lui laissant croire qu'il allait délivrer la princesse Micomicone. L'unique but du curé et du barbier était de le ramener chez lui dans l'espoir de trouver une cure pour leur incurable ami. D'un commun accord, ils décidèrent de s'arranger avec un bouvier qui passait par là avec sa charrette et ses bœufs, et à qui l'on demanderait de conduire notre chevalier de la manière qu'on verra. On fit construire une sorte de cage avec de gros barreaux de bois dans laquelle Don Quichotte put tenir à l'aise. Puis, sur les conseils du curé, des archers de la Sainte Hermandade, qui logeaient là et que Don Quichotte avait croisé en allant se coucher, et l'aubergiste lui-même se masquèrent et se déguisèrent de diverses façons afin que Don Quichotte ne les reconnaisse pas. Cela fait, ils entrèrent sans bruit dans la chambre où, épuisé, notre chevalier dormait paisiblement. Ils le saisirent, lui attachèrent solidement les pieds et les mains, de sorte que lorsqu'il s'éveilla en sursaut, il ne put bouger.
Oh. Ah, où suis-je ? Et qui sont ces fantômes autour de moi ? Ciel, me voici à mon tour enchanté, puisque je ne peux ni remuer ni me défendre.
De tous les présents, seul Sancho avait gardé son apparence et son bon sens habituel. Et il avait beau être, à peu de choses près, atteint de la même maladie que son maître, il reconnut sans mal quelle personne se cachait sous ses déguisements. Mais il n'osa ouvrir la bouche avant de savoir comment se terminerait la capture et l'arrestation de son maître. Don Quichotte non plus ne disait mot, attendant de voir où le mènerait cette triste aventure. Elle le mena dans la cage qu'ils avaient apportée près de son lit, où ils l'enfermèrent, et dont ils clouèrent si solidement les barreaux qu'il aurait fallu bien des secousses pour les ébranler. Puis, ils la chargèrent sur leurs épaules.
Oh, chevalier à la triste figure ! Puisse la capture dont tu as été l'objet ne pas te plonger dans l'affliction, car elle est nécessaire au prompt achèvement de l'aventure dans laquelle tu t'es vaillamment engagé, et qui s'achèvera lorsque le terrible lion de la Manche et la blanche colombe du Toboso auront convolé, et que le tendre joug du mariage aura fait courber leur tête altière. De cette union extraordinaire viendront au monde de fiers lionceaux, dressés sur 2 pattes griffues à l'image de leur valeureux père. Et cela se produira avant qu'Apollon, qui poursuit la fugitive Daphné, ait rendu dans sa course quotidienne et rapide par 2 fois visite aux signes étincelants du zodiaque. Et toi, ô le plus noble et le plus fidèle écuyer, ayant jamais porté le glaive au côté, la barbe au menton et le nez au milieu du visage, je peux t'assurer, au nom de la sage Mentironiane, que ton salaire te sera payé, comme tu le verras le moment venu. Suis les pas de ce vaillant chevalier enchanté, car il convient que tu l'accompagnes jusqu'au lieu où tous deux vous vous arrêterez. Il ne m'est pas permis d'en dire davantage. Adieu. Pour moi, je m'en retourne d'où je viens.
Oh, divine prophétie! Je serai donc uni par les liens sacrés et légitimes du mariage à ma chère Dulcinée, dont les bienheureuses entrailles donneront le jour à mes enfants pour la gloire éternelle de la Manche. Qui que tu sois, toi qui me promets tant de bonheur, je te supplie de demander de ma part au sage enchanteur chargé du soin de mes affaires de ne point me laisser périr dans cette prison où l'on m'emporte avant que j'aie vu s'accomplir d'aussi réjouissantes et incomparables promesses. Quant à mon écuyer, Sancho Panza, je connais assez sa bonté et son honnêteté pour savoir qu'il ne m'abandonnera pas, que le sort me soit contraire ou favorable. Et si la fortune ne nous souriait ni à l'un ni à l'autre, et que je ne puisse lui donner son archipel ou quelque chose d'équivalent, il ne perdra pas pour autant son salaire. J'ai spécifié dans mon testament ce que l'on doit lui donner, et qui n'est certes pas en proportion de ses bons et loyaux services, mais de mes moyens.
Sancho s'inclina très civilement devant son maître et lui baisa les deux mains au lieu d'une. Comme elles étaient attachées, il ne pouvait guère faire autrement. Aussitôt, les fantômes soulevèrent la cage et la chargèrent sur le char à bœuf.
À suivre. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Un feuilleton adapté par Juliette Eman. D'après le roman de Miguel de Cervantes. Traduit par Aline Schulman. Et publié aux éditions du Seuil. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Neuvième épisode. Avec Daniel Kenningsberg, Bernard Ménez, Laurent Ferraro, Luc-Antoine Diquero, Jean-Pierre Becker, Peggy Martineau et Nathalie Serda. Musique originale, Sébastien Schuller. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Vignal, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, Cédric Ossier.